Je voudrais parler un peu plus de Jean Zaclade, qui était mon maître à l'époque. Il le fut pendant environ 6 ans, depuis la terminale. Et ce qui nous mènera à notre discussion concernant la Kabbale aujourd'hui, en tout cas à une des formes de la Kabbale aujourd'hui en France. Jean Zaclade, qui est décédé depuis quelques années maintenant, avait été professeur de philosophie au lycée Yavné. Il enseignait aussi, comme je l'ai indiqué, dans des cours privés chez lui, dans le 16e arrondissement, dans un petit appartement. Il enseignait surtout à partir des textes du Gaon Élie de Vilna, qui est un kabbaliste et un talmudiste, surtout connu pour ses commentaires sur le Talmud, mais qui était aussi un kabbaliste, commentateur du Zohar, commentateur du Sefer Yetzirah et commentateur du Tikkuné HaZohar, un livre que prisait particulièrement Jean Zaclade, qu'il prisait bien au-delà du Zohar lui-même, qu'il considérait comme trop littéraire à son goût. C'était l'enseignement du Gaon de Vilna, ses écrits, d'une abstraction redoutable, qui faisait l'essentiel de son enseignement. Jean Zaclade, je l'ai rappelé, avait rencontré Léon Ashkenazi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était lui, Léon Ashkenazi, qui l'avait ramené au judaïsme, dont il s'était quelque peu écarté, parce qu'il avait été en contact avec le clergé. Je crois qu'il avait été abrité pendant la guerre par des membres de l'Église et dans un séminaire catholique. Et il était proche de se convertir. Au moment où il rencontra le leader du renouveau juif, du judaïsme français, et surtout de la jeunesse juive d'après-guerre, que fut Manitou, surnom donné à Léon Ashkenazi, qui était un chef scout. Et à partir de cette rencontre, il retourna au judaïsme, il s'y pencha, il continua ses études à l'école des cadres, l'école Gilbert Bloch à Orsay, où il côtoya différentes personnalités, comme Henri Atlan, comme Gérard Israël et bien d'autres encore. Et à l'école Gilbert Bloch, il poursuivit ses études avec Léon Ashkenazi et il entama des études de philosophie classique. Il se passionna pour Husserl et il consacra sa thèse de philosophie à ce qu'il appelait l'ontologie biblique. Le titre de sa thèse, c'est d'ailleurs Essai d'ontologie biblique. Il se proposait, grâce aux enseignements surtout des kabbalistes, de considérer la Bible comme délivrant un enseignement relatif à l'être. Chaque personnage biblique, pour les kabbalistes, dans une séphira, et pour Jean Zaclade, étant relatif à un des aspects, un des attributs ou à une des manifestations de l'être. Mais l'enseignement de Jean Zaclade ne s'est pas borné à cette thèse, qui a été publiée d'ailleurs aux éditions Mouton en 1967. Sa thèse complémentaire, puisqu'à l'époque il y avait deux thèses, c'était une thèse d'État, comprenait aussi un commentaire sur les 5 livres du Pentateuque. Ce commentaire n'a pas été publié. On peut caractériser l'enseignement de Jean Zaclade, qu'il soit écrit ou oral, mais surtout son enseignement oral, comme étant à la fois très fidèle dans son intention et dans sa motivation à l'enseignement des kabbalistes et à l'enseignement laurianique tel qu'il est interprété tel qu'il est relu par le Gaon Élie de Vilna, d'une part, Et d'autre part, soucieux des implications philosophiques de cet enseignement. Et je crois que ce qui caractérise un peu l'intérêt des Français pour la Kabbale, et cela depuis le 19e siècle, c'est qu'il est lié à des intérêts d'ordre philosophique. C'est un petit peu le cas aussi en Allemagne. Ce n'est plus du tout le cas dans les pays anglo-saxons ou en Israël. Je dirais que l'intérêt envers la Kabbale, tel qu'il s'est développé en France, a été longtemps limité à des cercles ou à des milieux de philosophes, et de philosophes juifs en particulier, mais pas uniquement. Je rappellerai d'abord le titre du livre classique, le premier livre, la première étude critique sur la Kabbale que l'on doit à Adolphe Franck, qui est son étude sur ce qu'il appelait la philosophie religieuse des Hébreux. Et le mot philosophie ici prend tout son sens quand on sait que Adolphe Franck était professeur de philosophie du droit au Collège de France, et qu'il est l'auteur de l'encyclopédie philosophique du 19e siècle, qui a été extrêmement célèbre, qui est l'ancêtre, le prototype de ce qui sera par la suite le vocabulaire de philosophie de la langue. Et ensuite, plus près de nous, dans les années 50, 60, les ouvrages d'un philosophe juif qui a écrit, entre autres, sur les Esséniens, sur Maïmonide, sur l'art et l'esthétique, qui est Henri Serrouillat. Henri Serrouillat, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle tout simplement La Kabbale, paru aux éditions Grasset, et qui a été récemment republié, qui l'est à nouveau, je crois. Il y a assez souvent des rééditions de cet épais ouvrage qui fait plus de 600 pages, qui se propose de montrer l'intérêt métaphysique de la Kabbale. Et d'ailleurs, plusieurs éléments dans le texte de Serrouillat évoquent un peu l'enseignement de Jean-Jacques Lade, ou plutôt l'attitude de Jean-Jacques Lade envers la Kabbale et les kabbalistes. D'abord, une grande méfiance, un rejet pour tout ce qui est magique, pour la numérologie, pour le jeu sur les lettres et sur les mots, considéré comme une sorte de dépravation de la Kabbale. Rejet qui s'accompagne d'ailleurs d'une méfiance très grande envers un kabbaliste espagnol célèbre, Abraham Aboulafia, considéré par Henri Serrouillat comme quelqu'un qui a utilisé la Kabbale à des fins personnelles pour en faire quelque chose qui n'a plus rien à voir avec sa métaphysique. Et c'est le mot métaphysique ou le mot ontologie qui reviennent dans les écrits et dans la bouche d'Henri Serrouillat, comme plus tard de Jean-Jacques Lade, pour désigner ce qui constitue pour eux le véritable intérêt de la Kabbale. Et tout ce qui est d'ordre plus mystique, plus haut, plus précisément simplement mystique, les phénomènes de mysticisme, lévitation, etc., tout ce que l'on connaît dans l'histoire des religions et que l'on connaît aussi dans l'histoire de la Kabbale, ne sont pour eux que des épiphénomènes peu intéressants qu'il faut laisser de côté, en tout cas qui ne concernent absolument pas le fond de l'enseignement des kabbalistes. Une autre caractéristique de la forme moderne ou contemporaine de la Kabbale en France, d'un de ses aspects en tout cas, c'est une grande distanciation, voire une critique avouée envers l'œuvre de Gershom Scholem. Déjà dans la préface qu'Henri Serrouillat a écrite pour son propre ouvrage, La Kabbale, il critique sévèrement Gershom Scholem pour s'être intéressé et n'avoir vu dans la Kabbale que son côté et son aspect magique ou mythique. Jean-Jacques considérait avec plus d'indulgence Yerchom Shalem, mais tout de même, il le voyait comme quelqu'un, comme un historien qui n'avait strictement rien compris à l'ontologie ou à la métaphysique de la Kabbale, bien qu'il avait lu et qu'il lisait ses ouvrages, mais sans y attacher une très grande importance. Nous voyons aussi par là que, en France, l'œuvre de Gershom Scholem a eu une influence faible, sinon négative, sur l'intérêt qui lui a été porté, qui a été porté à la Kabbale, par les Français, par les Juifs français en particulier, au début de cette deuxième moitié du XXe siècle. Une autre caractéristique de Jean-Jacques Lade était que pour lui, les livres de Kabbale n'avaient qu'une importance très secondaire. Et cela, c'est une différence par rapport à Henri Serrouillat, qui n'avait de rapport à la Kabbale qu'à travers les écrits des kabbalistes. Jean-Jacques Lade avait reçu un enseignement oral auquel il tenait beaucoup, qui était pour lui l'essentiel, qui constituait le fond de tout ce qu'il savait, alors que les livres n'étaient au mieux que des aides-mémoires. Donc la tradition orale était quelque chose d'extrêmement important, de tout à fait central pour Jean-Jacques Lade. D'ailleurs, c'était le cas aussi de son maître Léon Ashkenazi, dont l'enseignement était resté essentiellement oral. Mais à la différence de Léon Ashkenazi, Jean-Jacques Lade a écrit plusieurs livres. Et il écrivait beaucoup. Une partie infime de ses écrits ont été publiés ou imprimés. Parmi ses écrits, il y a bien sûr sa thèse que j'ai citée, l'essai d'ontologie biblique. Et il y a quelques articles, pas très nombreux, mais surtout la série de ses ouvrages qui s'intitule Pour une éthique. Le premier livre avait pour sous-titre De Dieu, un peu à la façon de Spinoza, More Geometrico, avec une ambition d'abstraction extrêmement grande, d'abstraction qui est synonyme d'universalité et de mathématiques, puisque Jean-Jacques Lade est un grand passionné pour cette science, les mathématiques. Et puis, L'être au féminin, son deuxième ouvrage, publié aussi comme celui que je viens de citer aux éditions Verdier. Et un autre ouvrage publié par Jean-Jacques Lade lui-même, qui s'intitule L'Alliance. Il publia par la suite aux éditions Bibliophane les deux modèles de la religion. Ouvrage qui lui avait été inspiré par les cours de Kako au Collège de France. Et beaucoup d'écrits, des commentaires sur le Tikkuné HaZohar, des commentaires sur la Bible, des cahiers, des feuilles, parce qu'il écrivait surtout sur des feuilles volantes, des feuilles doubles de format d'écolier, un grand nombre de feuilles qu'il noircissait de son écriture dense, élégante et pleine d'envolée, qui demeure à ce jour inédite.